et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du média et webzine GoutteMedisc. Le principe est extrêmement simple, nous invitons des gens dont nous apprécions le travail, dont nous apprécions la vision, pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important dans leur vie ou dans leur carrière, c'est le fameux Game Changer qui donne son nom à ce programme. Pour m'épauler sur ce nouveau numéro de Game Changer, j'accueille un petit nouveau en la personne d'Alex, dont vous avez peut-être lu sur le site GoutteMedisc les articles consacrés au punk, au hardcore et au punk hardcore. Salut Alex, comment ça va ?
Ça va Jean-François et toi ?
Ben ça va parfaitement. Alors pour ce nouveau numéro, on a l'immense plaisir d'accueillir Elisabeth Debourse. Salut Elisabeth, est-ce que ça va ?
Salut, ça va très bien.
Alors si le nom d'Elisabeth ne vous dit rien, sachez juste que si vous vous intéressez un tant soit peu au bien manger et au bien boire, elle est un guide précieux dans la jungle des bonnes et moins bonnes adresses. Mais j'en dis déjà trop et Elisabeth, c'est une tradition dans ce podcast, je te laisse te présenter succinctement.
Alors, je m'appelle Elisabeth Debourse, j'ai 31 ans, je suis journaliste de formation et de métier. J'ai commencé dans la culture, dans la musique, avant de passer un peu en société et puis de carrément m'engouffrer dans la veine bouffe et toujours liée aux questions de société, donc bouffe et société. Aujourd'hui, je suis la rédactrice en chef du Fooding, qui est un guide de restaurant qui existe depuis 23 ans en France et depuis 6 mois en Belgique.
Et tu ne l'as pas dit, tu es l'autrice d'un ouvrage récemment paru, n'est-ce pas ?
Ouais.
Tu peux donner le titre.
Qui s'appelle American Appetit.
Mais bien sûr, on en reparlera un petit peu plus tard dans ces émissions. Donc merci Elisabeth. Sans plus tarder, on se lance donc officiellement dans ce nouvel épisode de Game Changer. C'est parti. Comme vous le savez, nous avons demandé à Elisabeth de choisir un album qui a beaucoup compter pour elle et qui va servir de point de départ à une discussion qui, autant vous prévenir tout de suite, risque de partir dans pas mal de directions. Et le titre de cet album, comme d'habitude, c'est l'invité qui a le privilège de nous le dévoiler. Donc Elisabeth, on t'écoute.
C'est un album d'Eliott Smith qui s'intitule tout simplement Eliott Smith.
Le deuxième album donc de ce singer-songwriter américain à la trajectoire pour le moins cabossée, sorti en 1995 sur le label indépendant Kill Rock Stars, label par lequel ont transité des groupes aussi importants que Bikini Kill, Gossip ou encore Sleater Kinney. Mais c'est Alex qui va nous en dire un petit peu plus sur le disque dont on va parler aujourd'hui. Alex, on t'écoute.
Alors, le choix de ce disque, déjà, pour moi, c'était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que ça m'a permis de me plonger dans la discographie d'un artiste à côté duquel, finalement, j'étais complètement passé à côté, malgré l'aura légendaire qui entoure toute son histoire. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en deux semaines. Je viens tout simplement de découvrir Wilco il y a même pas une semaine, donc.
C'est une belle découverte.
Ouais, c'est une belle découverte. Et la mauvaise nouvelle, en fait, c'est que j'avais jamais écouté un seul de ces morceaux. Et que, donc, il a fallu un peu me renseigner sur le parcours de ce monsieur et la personne à qui j'avais affaire. Et disons que toute son histoire est très, très loin d'être réjouissante. Donc, voilà. Il fallait se préparer pour ça. Pour info et pour les personnes qui ne le sauraient pas, Eliott Smith, il est décédé en 2003, seulement 34 ans. Alors, suicide ou accident, on sait pas trop. Les circonstances de sa mort sont pas très clair. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort de deux couteaux dans la poitrine. On vous laisse décider vous-même de l'issue de l'enquête. Donc, pour remettre un petit peu en contexte, Eliott Smith, après avoir fondé en 1991 et joué pendant plusieurs années dans le groupe de rock alternatif Heat Miser, il entame une carrière solo en 1994. Son premier album sort la même année, Roman Candle, même si, à la base, c'est plutôt un recueil de démos qui n'avaient pas leur place dans la discographie de Heat Miser. Pour information, et les personnes que ça intéresse, il y a une compilation de B-side de Heat Miser qui sort bientôt, en octobre, au moment peut-être où ce podcast sort, sur Third Man Records, qui est le label de Jack White. Donc, l'album sur lequel on se penche aujourd'hui, c'est Eliott Smith. C'est son deuxième album studio de cet artiste donc, qui est né à Omaha, dans le Nebraska, comme Fred Astaire,
exactement,
comme Conor Oberst, de Bright Eyes, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est considéré comme son vrai premier effort solo. Et c'est un disque qui montre déjà en fait, la croissance artistique de Smith au-delà de Heat Miser, tout en maintenant en fait, un peu ce côté intime qui va caractériser tout le reste de son œuvre. C'est un album qui est sorti en 1995 sur Kill Rock Stars, un label d'Olympia qui était plutôt orienté punk rock, indie rock. Et donc la sortie de ce disque, elle a été précédée par celle du single Needle in the Hay, début janvier 95, et c'est ce titre qui ouvre l'album. C'est aussi celui qui est devenu le plus emblématique, peut-être parce qu'il évoque de manière assez prémonitoire le suicide, et certainement parce qu'il est magnifique aussi. Le fait qu'il ait été choisi par Wes Anderson pour la BO de la famille Tenenbaum a peut-être joué aussi un rôle. Elliot Smith, il a un rapport au cinéma qu'on abordera aussi un peu plus tard.
Sur une scène de suicide en plus dans le film,
ouais.
Je pense.
Et il paraît que pour la petite anecdote, il était très très mécontent de l'utilisation de cette chanson sur cette scène.
On en reparlera.
Faites-en ce que vous voulez. Mais maintenant, on va parler un petit peu du contenu, mais à l'image de la pochette de l'album qui représente deux personnes qui tombent ou sautent d'un immeuble. En fait, on a l'impression qu'on est les spectateurs impuissants d'une autre chute, et c'est celle de la santé mentale d'Eliot Smith. C'est un disque qui est extrêmement désenchanté, très dépouillé, comme si Eliot Smith, il était déjà en train de nous raconter sa propre fin, en fait. À ce moment-là, il lutte contre sa dépendance à l'alcool, contre la solitude qui va aussi l'accompagner durant les années de sa célébrité. Et en fait, on sent que la liberté de vivre comme bon l'entend, c'est quelque chose qui le terrifie complètement. Ici, pour le style musical, on est proche d'un son folk avec quelques ajouts de batterie ou d'harmonica, comme par exemple sur l'excellent Alphabet Town. C'est une musique qui est à la fois honnête et émotionnelle, qui vient se poser sur des mélodies toujours très délicates. Alors on pourrait dire que c'est parfois un peu naïf ou trop minimaliste, si ce n'est quelques arrangements qui viennent compléter les compositions plutôt que de les submerger, et surtout qui soulignent les émotions véhiculées par les paroles. Ça, je crois que c'est quelque chose d'assez important dans la musique d'Eliot Smith. Eliot Smith, c'est quelqu'un qui adorait aussi les Beatles et les harmonies vocales des Beatles. Et donc il essaye de reproduire dans son œuvre un peu ce procédé en superposant différentes versions de sa voix. C'est ce qui va devenir un petit peu sa signature par après. Je le disais, le jeu de guitare, il est toujours très très subtil. Production particulièrement bien équilibrée. Et c'est un disque captivant parce qu'en fait on sent qu'il est empreint de toutes sortes de démons que Eliot Smith est en train de combattre et qu'il est bien occupé à combattre à ce moment-là. Une autre caractéristique, je le disais à l'instant, de son travail, c'est que ce sont les paroles introspectives. Sur 12 titres, finalement, on retrouve des thèmes assez universels, l'amour, la trahison, les doutes. Je pourrais prendre l'exemple de Christian Brothers, qui est une chanson qui aborde une confrontation sous l'emprise de l'alcool avec son beau-père abusif. Je pourrais parler de Clementine, qui évoque simplement les doutes d'un homme sous dans la rue par rapport à sa relation. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont assez, assez intenses dans les thèmes. Mais surtout, les paroles de l'album contiennent de nombreuses références à l'addiction et à l'usage des drogues. Alors, si Smith prétend que ses paroles sont que des métaphores et ne doivent pas être prises au premier degré, je pense qu'on peut dire que la suite de son parcours montre qu'on est plus proche de la réalité que du mythe. Et l'avenir montrera aussi qu'il s'agit de son album le plus sombre et le plus personnel. Parce que dans la suite de sa discographie, on retrouve des choses parfois un peu plus lumineuses, même si ça reste quand même assez intense. En somme, voilà, Eliot Smith, c'est un disque assez vulnérable qui a été très bien accueilli après sa sortie. Ça a surtout marqué une étape importante pour lui vers une reconnaissance beaucoup plus large. Et c'est après la sortie de ce disque et celui qui le suit qui va vraiment devenir une figure emblématique du folk alternatif. À titre indicatif, vous en ferez ce que vous voulez. Pitchfork lui accorde la note de 9.5. On est donc sur un album qui a très très bien passé l'épreuve du temps et qui reste encore très pertinent aujourd'hui pour beaucoup de monde.
Eh bien, merci Alex. Merci pour cette première chronique dans Game Changer. Tu as réussi brillamment ton rite de passage. Alors, première question maintenant pour toi, Elisabeth. Alors, c'est une question à la fois simple et je pense éminemment compliquée. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette chronique? Et puis surtout, plus généralement, qu'est-ce qu'il t'inspire, ce disque?
Alors, je suis frappée dans la chronique de revoir toutes les références cinématographiques. Moi, j'ai rencontré ce disque via le premier morceau de l'album qui s'appelle Needle in Hay, donc l'aiguille dans la botte de foin, ou une aiguille dont on peut avoir une autre interprétation. Et j'ai découvert dans La famille Tenenbaum une scène que je trouve incroyable qui accompagne très très bien le morceau, et c'est vrai que c'est presque un peu décevant que lui n'ait pas du tout apprécié cette interprétation filmée. Le fait qu'on retrouve aussi des morceaux le morceau, tu parlais tout à l'heure de son amour pour les Beatles, le fait qu'il ait réinterprété Because dans le film American Beauty. En fait, je l'ai regardé sur ta feuille, je pense que t'as oublié de le dire, t'as passé là. Et en fait, j'étais pas du tout au courant, et c'est marrant parce que American Beauty, c'est le film de mon adolescence, quoi. C'est un peu, mais je pense que ça doit être le cas pour plein d'ados des années 90 et début des années 2000, un peu presque le premier film quasi-auteur, ou en tout cas avec des références qui transgressent un petit peu. Donc, qu'est-ce qui m'inspire d'autre, cet album? Alors, c'est marrant parce que toi, t'en as une interprétation super sombre, et pour moi, je trouve que c'est un album d'une douceur extraordinaire, et que c'est quelque chose qui est super marquant dans toute sa disco, c'est que c'était finalement quelqu'un de très doux. On a pas mal d'autres rockstars, d'autres exemples d'artistes des années 90 et qui sont morts début des années 2000, qui ont eu des vies beaucoup plus explosives. Et lui, à part cette fin qui est tragique et vraiment... Combien,
c'est dur, hein.
Combien de personnes on connaît qui meurent comme ça, enfin moi aucune. À côté de ça, moi ce que j'ai vu de lui, notamment dans un documentaire qui s'appelle Heaven Adores You, c'est vraiment une personnalité très douce, seule, un peu perdue dans ce monde, quoi, qui n'appartient pas à nous, à la société. Et je trouve que tu disais que c'était un album avec d'arrangements très simples. C'est vrai que c'est folk, c'est principalement à la guitare. Mais en fait, pour moi, c'est une volonté d'épouillement qui correspond à sa vie, au fait que même dans la célébrité, il a jamais voulu vivre dans le fast.
C'est assez paradoxal ce que tu dis, parce que à l'échelle de sa discographie, c'est pas comme si Elliott Smith s'est mieux porté avec le succès, avec les années qui passent. Pourtant, ces albums, eux, on a quand même le sentiment, moi, quand je réécoute Figure 8, quand je réécoute EXO, que ce sont quand même des disques, là, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus agréables à écouter qu'un disque que moi, un peu comme Alex, je ressens quand même beaucoup de douleur quand j'écoute ce disque. Alors, il y a une certaine douceur, c'est vrai, mais derrière, on sent quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés dans l'accouchement du disque, dans la façon dont il s'exprime, quoi.
Mais je crois, bon, je n'irai jamais rencontrer cette personne, mais de ce que j'ai lu de lui, c'est qu'il a aussi eu quand même un système de support, des amis, des petites copines qui ont, je pense, à des moments éclairé sa vie, et que dans peut-être les gens qui traversent des dépressions, ça on peut vraiment parler, je pense, dans sa vie de dépression chronique, et où les substances sont un échappatoire, ben c'est peut-être ça, les petits carrés lumineux qui s'expriment en musique. Et par exemple, pour revenir au dépouillement dans Needle in the Hay, je lisais que à la base, dans la première version, il y avait de l'harmonica et de la trompette. Pour moi, la trompette, c'est l'instrument, c'est un des instruments de la joie, de la fête. Et le fait qu'il ait été retiré ça, il y a quand même un truc. Quand à un moment donné, on a quelque chose un son qui est ample et qu'on décide à dessein d'en retirer de la substance, il y a quand même il y a une forme d'humilité aussi, je trouve, dans...
Bah, pourtant, c'est ce vers quoi il va plutôt aller par après, parce qu'on a parlé déjà des Beatles un petit peu, et je sais pas si vous savez, mais le dernier morceau jamais joué en live par Elliott Smith, c'est une reprise des Beatles. Il reprenait très très régulièrement les Beatles, et j'ai dû aller vérifier, mais le dernier morceau qu'il joue, c'est un morceau des Beatles qui s'appelle Long Long Long. C'est son dernier enregistrement, et si vous tapez Beatles Elliott Smith sur YouTube, vous allez tomber sur un paquet de bootlegs de live d'Elliott Smith de l'époque, où il reprend magnifiquement bien d'ailleurs des Beatles qu'il adorait. Et puis d'ailleurs, il a enregistré un de ses albums, je crois que c'est Figure 8, à Abbey Road en partie. Donc il y avait quand même cette fascination pour les Beatles, et principalement, je pense, pour John Lennon, ce qui, je trouve, lui ressemble assez bien, parce que John Lennon avait quand même ce côté un peu plus torturé, sombre, par opposition à McCartney, qui avait l'air un peu plus lumineux et joyeux. Mais revenons-en quand même à ce disque. Est-ce que toi, c'est un disque que tu écoutes encore régulièrement?
Je choisis le moment où je l'écoute, parce que même s'il est empreint de douceur, il est un peu sombre. Il faut l'écouter un dimanche à 10-11 heures, quand il y a un beau rayon de soleil qui passe par la fenêtre, et juste laisser saisir par cette mélancolie qui est pas, que moi je sens pas destructrice, en tout cas pour les auditeurs, auditrices. Et donc, est-ce que je l'écoute souvent? Ouais, je l'écoute, je dirais, encore une fois tous les mois, tous les deux mois.
Ah ouais,
ce qui est beaucoup quand même.
C'est beaucoup, ouais.
Tu le situes où, toi, sur l'échelle de tes artistes préférés, Elliott Smith?
Alors, je n'ai pas d'idole, et je revendique, je déteste l'idée d'aduler quelqu'un.
Le concept de fan, t'es étranger.
Mais c'est pas mes étrangers, c'est que je trouve qu'on est toujours déçus. Vraiment.
C'est vrai?
Ouais, j'ai eu ça avec Nick Cave, qui était vraiment quelqu'un que j'admire toujours d'une certaine manière, mais pour son travail, pour sa poésie et tout. Je me retrouvais dans la salle philharmonique du Luxembourg, où il faisait un concert spécial, où il faisait un question-réponse et il jouait des morceaux, un truc vachement intimiste, que je l'ai entendu dire un truc hyper boomer, en mode genre, le féminisme, ça va trop loin. J'étais là, mais c'est quand même pas possible. Il n'y en a pas un seul qui est...
Mais ça fait partie aussi de ces histoires d'amour. Je pense qu'être fan, c'est aussi accepter qu'on va vivre une longue histoire d'amour avec des déceptions, des moments très forts, des moments plus difficiles. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le concept d'être fan. Je sais pas, toi, t'es fan peut-être, Alex
Moi, je suis fan de beaucoup de choses. Mais comme tu dis, ça vient avec beaucoup de déceptions aussi. Et à un moment, tu finis par lâcher.
Voilà. On peut rien y faire, Et est-ce que vous deux, vous rangeriez Elliott Smith, parce qu'on a évoqué son parcours très difficile, dans cette catégorie de musiciens qui aurait peut-être pas dû avoir un tel succès, parce que je pense que le succès lui a quand même peut-être fait presque plus de mal que de bien. En tout cas, il a eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à gérer ce succès, et que, en quelque sorte, on aurait peut-être préféré que Elliott Smith ait une sorte de, peut-être de destin à la Nick Drake avec une gloire posthume, plutôt que finalement un destin. Moi, je peux prendre un exemple très connu qui va être celui d'Amy Winehouse, qui était une fille qui, quand on regarde ce documentaire Amy, qui est magnifique, et on l'entend dire, moi, tout ce que je voulais, c'est juste chanter. Je pense qu'elle n'avait pas cette volonté d'être connue, elle voulait juste prendre du plaisir, et on voit que cette célébrité et son entourage, en plus, l'ont complètement bouffé toute crue, et c'est terrible à regarder. Et quand on regarde cette trajectoire d'Elliott Smith, quand on lit sa page Wikipédia avec des anecdotes toutes plus glauques les unes que les autres, liées à son addiction, liées à sa jeunesse, etc., parfois on se dit peut-être que ce gars n'aurait peut-être pas dû avoir ce succès-là.
Je crois que ça aurait été génial qu'il traverse les années 2000. Pour avoir revu un peu dernièrement le documentaire sur Nirvana et sur les Red Hot, on voit qu'il y a vraiment un truc, les années 90, les années 2000, la drogue ultra présente, hyper destructrice. On parle de crack, d'héroïne. Je pense que ça n'aide pas la santé mentale. Et donc, il aurait mérité de traverser cette décennie-là, hyper destructrice, et d'avoir une carrière à la Leonard Cohen, de mourir très vieux, en ayant connu plein d'amour dans sa vie, en ayant eu la chance d'évoluer, enfin de devenir vieux en fait, de peut-être trouver autant de douceur que ce qu'il mettait dans son travail.
Non, j'allais rebondir sur le disque. Je voulais savoir si toi, tu considérais que c'était le meilleur de sa discographie ou juste ton préféré.
C'est mon préféré parce que je pense que c'était ma porte d'entrée. C'est un des premiers vinyles que j'ai possédé aussi. Donc j'ai un. Puis je trouve que, enfin, le trois quarts des morceaux sont vraiment excellentissimes dedans, quoi. Et puis il y a une progression dans l'album qui est hyper naturelle. Enfin, ça coule.
Et c'est un album très fluide, en fait. Et pas si long, Je pense qu'on est sous la barre des 40 minutes, 12 titres. Ouais. Et comme tu dis, ça coule.
Mais moi, paradoxalement, j'ai plus de mal à finir celui-là sans trop de soucis et beaucoup plus de facilité avec tous ceux qui vont suivre. Plus sa carrière va avancer, plus je vais prendre du plaisir à écouter Elliott Smith. Et cette dimension de plaisir, elle est déjà assez intéressante parce que toi, tu prends un certain plaisir, alors que Alex et moi, on évoque un peu cette question de... on a évoqué ce sentiment de douleur et de difficulté à avancer dans le disque, parce qu'on sent qu'il se passe des choses pas simples. Justement, on a parlé déjà de quelques artistes qui ont eu pas mal de problèmes, des problèmes de drogue, des problèmes relationnels. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire assez facilement, justement, vous détacher des histoires, des fêlures des artistes, quand vous écoutez la musique, de se dire, moi, je vais pas me concentrer sur ce que cette personne est en train de vivre, je vais me concentrer sur finalement mon plaisir à moi, quelque chose être dans une écoute finalement très, très égoïste, je trouve. Je sais pas si. Comment vous percevez ce genre d'artiste et ce genre d'écoute-là?
Ouais, moi, la majorité des groupes que j'ai vus en concert, je savais pas à quoi ressemblaient les artistes. Donc, j'aime pas trop regarder des clips non plus. Donc, je me projette pas trop dans les personnes qui font d'un groupe ou dans les artistes de manière générale. Je crois que ça va aussi avec ce truc où, j'aime pas mettre dans quelqu'un mon ressenti de sa musique. Ça ne veut pas du tout dire, par contre, que je sépare l'homme de l'artiste. Justement, si j'apprends un truc qui me déplaît au niveau des valeurs, là, par contre, ça coupe toute envie, ça coupe tout plaisir, en fait, ce dont tu parlais juste là.
Parce que moi, je me dis aussi, tu parles, toi, de Elliott Smith et du plaisir que tu aurais eu de le voir traverser les années 2000. Moi, je me dis aussi que dans les années 90, quand je découvre Elliott Smith, ma seule source d'actualité musicale, c'est MTV News et c'est un peu de presse musicale. Et je me dis, quand je vois... je lisais en préparant cette émission une anecdote qui, moi, je trouve assez terrifiante. Sur l'enregistrement de ce dernier album qui va sortir de manière posthume. L'anecdote raconte qu'il demandait à ses potes de le déposer à un kilomètre et demi du studio. Il avait des délires paranoïaques complets et en gros, alors qu'il était en plein centre-ville, bah, il allait passer par des buissons, prendre tous les détours possibles, il s'imaginait suivi, etc. Et je me dis, mais ce genre de truc, ça arrive post-2010, on verrait malheureusement pulluler sur Instagram des vidéos d'un pauvre Elliot Smith, on ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Regardez, là, il est à New York, il est à côté de ses pompes, le pauvre. Donc je pense qu'il y a aussi...
C'est un peu ce qui s'est passé avec Amy Winehouse à une époque. Hein.
Ouais, alors qu'elle, on était encore qu'au début, on était plus... Elle, c'est plus même la presse people, je pense, à cette époque-là. Il n'y avait pas encore, je pense... Enfin, je n'ai pas le souvenir que... C'est quand Amy Winehouse? C'est tellement vieux, déjà, j'ai l'impression. Mais ouais, donc vous, voilà, il y a ce côté voyeur et impudique qu'on peut avoir parfois dans l'écoute de ces disques qui, visiblement, ne posent pas trop de problèmes.
Je sais pas, il aurait eu, enfin, c'est marrant de se projeter, de se dire qu'est-ce qu'il serait devenu. Il aurait eu 45 ans, peut-être il aurait été arrêté, il aurait arrêté de consommer, il aurait été complètement sobre, je veux dire, les délires paranoïaques ou tout ça, ça va aussi avec la consommation. Je dis pas qu'il aurait été fondamentalement peut-être plus heureux, mais je sais pas, je vois, on voit quand même dans l'histoire de la musique beaucoup d'artistes qui ont traversé des périodes hyper sombres et en fait, la plupart du temps, c'est soit ils sont morts, soit ils sont sobres, et ils peuvent plus toucher à rien et ils ont continué leur carrière plus ou moins célèbre, plus ou moins regardée et vue. Il y a un truc super intéressant sur Elliot Smith aussi, c'est que si on regarde les vidéos, enfin, c'est un mec, il était pas beau. Si on regarde par rapport à Kurt Cobain, même époque, beau gosse, blond, les yeux bleus, Elliot Smith, il a plein de traces d'acné, il a les cheveux gras, et moi, c'est ça aussi. Je crois qu'il y a ça qui me plaît chez lui.
Il y avait ce côté de musicien qui n'était pas à sa place dans son époque.
Pas à sa place. C'était,
enfin, il faut se rappeler, je pense, quand ces disques-là, ils sortent, c'est oh, tu parles de Kurt Cobain, le grunge est partout, les grosses guitares sont partout, et il y a ce mec tout timide, comme tu dis, avec une vilaine peau, les cheveux gras, qui débarque, qui fait de la musique tout seul avec sa guitare. Il était un peu anachronique, moi, je trouve, Elliot Smith, à cette époque-là.
Clairement.
Mais je vois qu'on est sur plein de sujets extrêmement, extrêmement joyeux. Je propose qu'on continue encore un peu dans cette veine de sujets très joyeux. Parce que bon, il y a un peu ce cliché du folk qui serait un peu une musique de somme, une musique pour quand ça va pas des masses, quoi. C'est en tout cas ce que beaucoup de gens imaginent. Et je me suis demandé, c'était quoi, vous, votre disque de somme idéal? Vraiment le sommet de ce genre de disque, et c'est peut-être pas un disque de folk, justement, parce que toi, tu te disais encore il y a quelques minutes, tu trouves du plaisir dans cette écoute d'Eliot Smith, Alex trouve plus de la douleur. Qu'est-ce que vous écoutez quand vous voulez, quand ça va pas et que vous voulez que ça aille encore moins bien?
Moi, il y a un disque d'Interpol, Turn on the Bright Light, qui est pas forcément le disque le plus triste du monde, mais qui véhicule tellement d'émotions que, en fait, et c'est là où je te rejoignais pas forcément tout à l'heure, quand tu parlais de mettre un disque d'Eliot Smith quand il fait beau. Moi, je vais plutôt le mettre un dimanche matin quand il s'est bien pluvieux. Et c'est plutôt là-dessus, en fait, que je vais m'orienter pour ce genre d'écoute-là. Si c'est le genre d'émotion que je veux rechercher, je pense que ça, c'est un bon disque, par exemple.
Et toi, Elisabeth?
Je déteste être triste.
Ok.
C'est un truc dont je parle à ma psy. Donc, vraiment, je déteste être triste. Et donc, j'ai une playlist sur Spotify qui s'appelle La Bamba Triste. Donc, c'est que des morceaux. C'est un peu triste, mais en même temps, il y a un peu moyen de danser dessus. Donc, je pense que c'est vraiment la preuve que c'est... Voilà, moi, je vais pas m'enfoncer dans le seum, je pense. Après, il y a des disques que je trouve très chargés. Il y en a un que j'ai failli mettre. Et ce sont souvent des disques qui sont, où il y a pas mal d'écriture. Donc, il y a presque un côté littéraire, au-delà de la musique. Et c'est Rooms of the House de La Dispute, qui est un disque super narratif qui narre aussi toutes des plus ou moins grande catastrophe, voilà, ou plus ou moins petite catastrophe
qui se déroule dans la maison.
Voilà.
La Dispute, qui, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas un groupe français,
non,
ou québécois.
La Dispute.
C'est un groupe du Michigan.
Voilà. Post-hardcore.
Tout à fait.
Qui
évolue plus vers quelque chose d'un peu plus indie aujourd'hui, mais qui a commencé dans cette vague un peu screamo et post-hardcore.
L'album suivant, EXO, qui lui sort en 1998. Pour cet album-là, Elliot Smith, lui, il sort ce disque sur DreamWorks Records. Hein. Donc DreamWorks Records, comme les studios DreamWorks. Ça veut dire qu'en gros, à cette époque-là, Elliot Smith, il était produit par David Geffen, Jeffrey Katzenberg et un certain Steven Spielberg qui avait investi dans les labels. Donc pas vraiment dans la même vision musicale qu'un label comme Kill Rock Stars sur lequel il est clos. Est-ce que vous pensez que des disques d'Eliot Smith, des disques comme ceux que faisait Eliot Smith, ils pourraient encore sortir sur des majors aujourd'hui?
En tout cas, pas avec le même dessin. D-E-S-S-E-I-N. Mm-hmm. Donc pas avec la même intention. Même si là, j'imagine que c'est... j'ai plus les dates en tête, mais ça doit être quand il a sorti... Quand il a eu l'Oscar pour la BO de Will Hunting.
Oui, on est assez, plus ou moins à cette période-là. Oui.
C'est vraiment le truc qu'il a fait éclater. C'est presque son... C'est presque le truc qui aurait dû pas dû se passer, en fait, dans sa carrière. Et je crois que c'est le moment où ça a commencé à vriller un peu dans sa tête, où, comme on disait, il était pas à sa place devant un parterre de stars qui l'applaudissent.
Ah bah, tu parles de ça, on parle effectivement de Will Hunting. Je sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais cette année-là, c'est en 98, je pense, en 97, il est nommé aux Oscars pour la meilleure chanson originale. Bon, il n'avait aucune chance, il y avait une certaine Céline Dion avec la BO Titanic en face qui l'a évidemment emporté. Et forcément, comme la chanson avait été nommée aux Oscars, on lui avait demandé de venir
jouer. Ouais, c'est de ça que je parle, ouais, devant un parterre de stage.
Ah ben voilà, mais à la base, il avait refusé, il ne voulait pas. Et c'est juste que les Oscars lui ont dit, si tu ne viens pas, on trouvera quelqu'un pour venir chanter la chanson à ta place. Et donc, Eliot Smith, un peu contre son gré, a dû venir effectivement se produire devant un parterre de mecs en costume, haineux pape. On peut imaginer le malaise que ça a dû susciter chez lui, qui n'allait déjà pas très bien à l'époque. Mais bon, allez, on enchaîne, on continue, on poursuit dans la joyeuseté. On l'a dit, ce podcast, il s'appelle Game Changer. Et maintenant, Elisabeth, on aimerait vraiment un peu mieux comprendre pourquoi ce disque, il est vraiment si important à tes yeux, ce qu'il a peut-être changé dans ta vie, voilà, que tu nous en dises un petit peu plus.
Alors, quand je découvre cet album, on est exactement en 2014.
Ah ouais, donc tu le découvres assez tard.
Ouais. Moi, j'ai pas eu du tout d'éducation musicale. À part et pareil pour la bouffe, je n'allais pas au restaurant avec mes parents. Et moi, à part les Beatles Richard Cochonté à la maison, j'ai vraiment jamais rien écouté. Donc, il y a plein de choses que j'ai découvertes tardivement parce que je les ai découvertes toutes seules à vraiment la fin de mon adolescence, pendant mes études. Et donc, je découvre, je sais situer la date parce que c'est la fin de mes études, je suis en stage au Focus Vif, et je le découvre via une camarade de stage qui s'appelle Lisa Burek, qui est aussi artiste aujourd'hui, performeuse, qui a joué dans des groupes, etc. Et donc, elle me parle de Needle in the Hay, parce qu'on faisait un article justement sur Wes Anderson à l'époque, je sais plus à l'occasion de la sortie de quel film. Et donc, je le découvre là-bas, et c'est game changer parce que c'est vraiment la sortie de l'adolescence, l'affirmation de mes propres goûts. En même temps, c'est un disque qui m'a donc été présenté par une femme dans un milieu musical pré-MeToo. On ne parle pas encore, ou très peu, de l'absence de... Ou en tout cas, le peu de femmes qu'il y a dans l'industrie musicale, etc. Et puis voilà, c'est le début de ma micro-carrière dans le journalisme musical. Et donc voilà, je crois que c'est aussi pour ça qu'il m'a suivi, qu'il m'a collé à la peau.
Bon, écoutez, Elisabeth, Alex, on va continuer à parler de musique. On va essayer de passer sur des choses, je vous le promets, un petit peu plus joyeuses. Mais on va parler de musique dans un contexte un peu plus différent. Je vous explique, chaque épisode, c'est l'occasion de replonger dans les archives de l'année qui nous occupe, 1995 donc, et d'en extraire trois disques marquants. On en discute brièvement et ensuite, on en choisit un, chacun, en toute subjectivité, bien sûr.
Vous aviez quel âge en 95?
J'avais 16 ans.
J'en avais 6.
Et moi, j'en avais 3. Comme ça, on situe. Hein.
Voilà, les auditeurs pourront mieux comprendre dans quel contexte tout cela se fait. Revenons-en donc à nos 3 disques.
Je me dédouane totalement de ta connaissance, en fait.
Donc, première proposition, ce sera les Smashing Pumpkins et Melancholy and the Infinite Sadness. Je te rassure, Elisabeth, j'ai essayé de prendre des disques qui ont quand même un peu traversé les époques. Donc ce disque, c'est le troisième album studio de ce groupe d'indie rock de Chicago qui sort en octobre 95 sur Virgin Records. Double CD, triple LP, ce sont en fait deux disques. Le premier s'intitule Down to Dusk, le second Twilight to Starlight, pour un total de 28 titres qui, bah, musicalement, ratissent quand même extrêmement large. D'ailleurs, rien que les singles qui ont propulsé l'album dans des charts cette année-là suffisent à comprendre le côté boulimique et presque schizophrène de ce double album. On entend un orchestre sur Tonight Tonight, il y a des légères touches d'Electronica sur 1979, tandis que Bullet with Butterfly Wings tire, lui, vers le métal. Un disque ambitieux, donc généralement considéré comme le chef-d'œuvre d'un groupe qui, par la suite, on va pas se mentir, n'atteindra plus jamais un tel niveau de maîtrise et de versatilité. Alors moi, j'avais une petite question. Si vous avez connu, écouté ce disque, est-ce que vous pensez qu'on tient là le dernier grand double album de l'histoire du rock, Alex?
Moi, je vais te le dire tout de suite, les Smashing Pumpkins, c'est pas pour moi. C'était juste pas pour moi. Je pense que d'ailleurs, c'est le seul album que j'ai écouté de leur part. Mais bah, tu le disais, hein, c'est probablement l'album qui est considéré comme le plus grand de leur discographie.
C'est et trop gros, du coup.
C'est trop, ma capacité d'attention n'est plus là, en fait. Sur 1h45, je suis plus là. Je peux plus.
C'est vrai.
Bah, en fait, j'ai besoin d'être complètement concentré sur l'écoute d'un disque et me jeter dedans et rien faire d'autre. Ou alors, vraiment, éviter de faire d'autres activités sur le côté et me mettre 1h45 dans mon canapé juste pour ça, je ne le fais plus. On a réfléchi à ça en préparant l'émission. Il y avait peut-être le double album d'Outkast qui était un des gros...
Speaker Box de Love Below.
Exactement, qui était un des gros double albums de ces deux dernières décennies, peut-être.
Donc vous, en fait, vous faites partie de ces gens qui sont heureux que le streaming ait en quelque sorte tué les double albums, parce que c'était quelque chose qui se faisait. Le double album existait parce qu'il y avait un format de 2x74 minutes maximum sur lequel on pouvait caser un max de musique. Parce que quand on regarde les grands doubles albums de l'histoire, si on va dans les années 60 et 70, c'était des disques de Dylan qui sont considérés comme des doubles albums parce qu'ils tenaient sur deux vinyles, parce que ben, le format, ils étaient assez limités sur la longueur.
Mais c'est trop intéressant parce que pour moi, ce sont deux écoutes hyper différentes. Et c'est pour ça que j'ai un compte Spotify et que j'achète des vinyles.
Ouais.
Parce que j'adore avoir des playlists, j'adore pouvoir agencer aussi les morceaux, les émotions, pouvoir façonner, refaçonner, la faire passer dans un moule qui correspond à mes envies d'écoute. Et à d'autres moments, ça me fait trop plaisir d'écouter un disque de bout en bout, d'avoir cette écoute hyper active parce qu'elle est aussi physique, l'obligation de retourner, de remettre dans la pochette, de ranger, etc. Donc pour moi, c'est deux écoutes totalement différentes et dans ma consommation, je vois pas l'intérêt d'opposer streaming.
C'est juste que le streaming a complètement changé la façon dont on écoute les disques et dont ils sont faits. Parce que toi, t'écoutes peut-être des vinyles, mais quand je pense aujourd'hui, quand des musiciens et des producteurs pensent un disque, ils pensent pas fondamentalement au support sur lequel on va le mettre. Parce qu'aujourd'hui, on va principalement essayer de refourguer du vinyle si on doit vendre du physique. Parce qu'il faut bien se dire que vendre du physique est probablement pas la priorité numéro un aujourd'hui pour n'importe quel artiste. La priorité numéro un, c'est de tourner et de faire du chiffre, on va dire, en streaming. Donc il n'y a aucune limite. Et c'est pour ça qu'un Drake dit, moi, je fais plus des albums, je fais des playlists. Bon, là, on arrive à un cas assez extrême, mais c'est assez dingue de se dire que c'est finalement pas les artistes qui conditionnent peut-être nos habitudes d'écoute et la façon dont on écoute les disques, mais c'est en fait les supports. Les Beatles, je pense qu'ils étaient des disques de 35 minutes parce que ils pouvaient pas mettre plus de musique sur un support.
Le problème, c'est que tout le monde a pas le même talent que les Beatles et que sur un album d'une heure 45, t'auras pas toujours le même niveau de qualité sur 1h40.
C'est vraiment pour ça qu'il y a peu de grands doubles albums.
Exactement.
Aussi,
hein. D'Outkast, bah par exemple, le premier album de LCD Sound System, il est conçu comme un double album et il passe très très bien sur toute la durée.
Allez, on va passer au deuxième disque, la deuxième proposition, c'est Temples of Boom de Cypress Hill. Alors, comme son nom l'indique, il s'appelle Third Temples of Boom. C'est le troisième album du groupe américain de rap Cypress Hill et c'est un album qui avait la très lourde tâche de succéder à deux disques qui ont marqué le rap par leur originalité, l'originalité de la voix nasillarde de Biril d'abord, celle des productions de DJ Muggs aussi, et puis bien sûr il y avait cette façon inimitable de mélanger la violence du gangsta rap avec les origines latino et un amour immodéré pour la weed. Et alors que le succès mainstream leur tendait vraiment les bras, après le carton Black Sunday, on se rappelle Insane in the Brain, enfin on a tous un peu dansé là-dessus, Insane in the Brain, vous voyez ce que je veux dire, le groupe, il a posé avec ce disque des choix extrêmement inattendus, avec un résultat qui ressemble plus en fait à une descente de trip hallucinée. En tout cas, ça ressemble plus à ça qu'à une fiesta latina qu'on avait tous envie d'entendre à cette époque. C'est un disque sombre, c'est un disque glauque, c'est aussi un disque qui a été assez mal accueilli à l'époque, mais qui aujourd'hui, je trouve justement, colle vraiment bien avec cette époque un peu glauque et dépressive que l'on traverse. Donc si vous ne le connaissiez pas, on va vite le savoir, je vous le conseille. Est-ce que vous connaissiez ce disque de Cypress Hill?
Moi, oui.
Et qu'en penses-tu?
Eh ben, écoute, je trouve qu'il a pas si mal vieilli que ça. Le problème, c'est que la carrière de Cypress Hill a plutôt
Elle a mal vieilli.
Ouais, elle a très, très, très mal vieilli. Ouais. Et je me suis demandé si c'était peut-être pas leur dernier album intéressant.
Le suivant, c'est
Skulls and Bones.
Non, le suivant, c'est Four avec les squelettes là, qui forment le chiffre 4 romain.
Ok, mais je pense que malheureusement, Cypress Hill est plus vraiment pertinent depuis les années 2000. Et je les ai adorés.
Et on termine par le troisième disque que je soumets à votre choix. C'est I Care Because You Do d'Aphex Twin, soit le troisième album essentiel de l'un des artistes les plus essentiels de ces 50 dernières années, je pense qu'on peut le dire. Parce que oui, avec ses copains de Square Pusher, O'Taker, hein, ça se prononce O'Taker et pas O'Taker, ou Boards of Canada, c'est lui qui a écrit les plus belles pages de l'IDM ou Intelligent Dance Music, cette musique qui a cassé les codes à l'orée des années 90. D'ailleurs, quand Pitchfork, encore eux, a compilé ses 50 plus grands disques de l'IDM, ben, ces quatre artistes, ils occupaient à eux seuls 7 des 10 premières places du classement. Bref, la domination était absolue et I Care Because You Do est un disque à posséder absolument, comme une bonne partie d'ailleurs de la discographie et du back catalogue de Aphex Twin, hein, parce que c'est un gros mélange complètement fou d'ambient, de techno, de trip-hop, de house. Alors dit comme ça, ça peut sembler indigeste, mais je pense que c'est tout le génie d'Aphex Twin, c'est justement d'avoir rendu cela génial. Alors je sais pas si quelqu'un a vu justement l'énigmatique et discret Aphex Twin ces dernières années justement.
Bah, il est passé cet été à Dour, je n'y étais pas. Je crois que ce que j'ai vu qui pouvait s'en rapprocher le plus ces dernières années, c'était Flying Lotus.
Ouais.
Mais dans quelque aussi, chose peut-être d'encore un peu plus accessible.
Ouais.
Après, je te rejoins sur le fait qu'il y a, à nouveau, j'aime pas parler de génie, qui est, je vais à nouveau faire ma féministe de base, qui est un mot qu'on accole que en général aux artistes masculins. J'entends rarement dire d'une femme que c'est une génie. D'ailleurs, ce mot ne se féminise pas beaucoup. Où est-ce que j'en étais? Je me suis perdue dans mon militantisme de base.
Que tu n'étais pas à Dour.
Je n'étais pas à Dour.
Parce qu'Aphex Twin, lui, était à Dour.
Car j'étais en manifestation. Non, pas du tout. J'étais en vacances.
Moi, j'étais à Dour.
Et toi, t'étais à Dour.
J'étais à Dour.
Et tu es resté jusqu'à Aphex Twin.
Oui, parce que pour la petite...
C'était le dimanche soir.
C'était le dimanche soir, 11h du soir.
Jean-François n'osera pas l'avouer, mais il est parti 2 heures avant le set d'Aphex
Twin. C'est vrai.
C'est l'instant FOMO. Mais c'était un moment exceptionnel. Je pense qu'on était tous, déjà on était très
c'était
bien.
C'était le meilleur moment de Dour d'ailleurs, non?
C'était tout à fait le meilleur moment de Dour. J'avais eu la chance de le voir, moi, 6 ans, avant au Primavera, où c'était beaucoup, beaucoup plus difficile à rentrer dans le set. Il était arrivé de manière un peu trollesque, visuellement, on s'entraînait.
C'est pour ça que moi je suis parti, c'est que ce mec peut être un peu troll, et je me suis dit, après 4 jours de Dour dans les Guibolles, franchement, il faut être courageux quand il doit attendre 11h du soir. Je pense qu'il pleuvait. Non, il faisait pas très beau, en tout cas.
La pluie nous a évité.
Vous avez évité la pluie, c'est vrai. Je l'ai eu sur tout le trajet du retour.
Et tu n'étais probablement pas le seul à avoir ce ressenti. On était beaucoup à se demander si ça allait être une sorte de gros monolithe dans lequel il est impossible de rentrer ou exactement l'inverse. Et c'était exactement l'inverse. Pendant 1h30, on a eu 50 ans de musique électronique sur un set avec une fluidité, une maîtrise, une technique. C'était, voilà.
C'est ça que je trouve fascinant avec ce mec. C'est quand même une musique qui est quand même d'une complexité assez, assez évidente. Je mets ma main à couper que sur les 25, 30 000 personnes qui étaient devant Aphex Twin en tête d'affiche à Dour, il y en a peut-être un tiers qui connaissait vraiment sa discographie. Parce que moi, la plupart des gens avec qui je parle d'Aphex Twin, ils connaissent comme tout
Daddy,
ils connaissent Window Licker, ils connaissent les visuels, mais tu vas leur mettre un blind test avec 10 morceaux, dont 5 d'Aphex Twin et 5 autres du catalogue Warp de l'époque. Je suis pas certain qu'ils vont te dire avec certitude, ah, ça c'est un morceau d'Aphex Twin. Je trouve que ce mec, justement par sa discrétion et son caractère un peu trollesque, a réussi à créer une légende qui fait que le gars, il sort de sa tanière et il fait toutes les plus grandes scènes d'Europe et il va faire venir un monde de dingue qui, pour la plupart, connaissent pas. T'étais avec des potes qui, je suis certain, t'avais dit, moi, je connais pas, Fextune, on m'a dit,
je suis pas sûr, si,
je suis pas sûr,
vais.
On va aller voir et,
Non, mais le sentiment général était le même à la sortie de ce concert. On sent qu'il y a un petit bagage derrière.
Je pense qu'il y a effectivement un peu de talent. Bah, écoutez, maintenant, ça va être le moment de choisir un disque parmi ces trois-là. Alors, Elisabeth, on te laisse encore un petit peu le temps de la réflexion. Je t'écoute, Alex.
Oui, écoute, moi, si j'avais été adolescent au moment où on aurait dû faire ce choix, j'aurais probablement pris Cypress Hill. Mais là, je vais probablement partir sur le Aphex Twin. Aussi bien renforcé par le sentiment cet été qu'on a assisté à quelque chose d'assez exceptionnel et qu'en fait, la carrière de ce monsieur, elle est assez exceptionnelle. Si on prend cet album, c'est vraiment une sorte d'étalage de toute sa technique. C'est un ingénieur de... Pas de génie, mais
de talent.
Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment.
Il est ingénieux.
C'est aussi une
exactement.
Bonne description.
Mais on a l'impression que sur chaque album, en fait, il veut repousser les frontières. La proposition est toujours différente. Il fait ça avec une telle maîtrise. C'est innovant, c'est avant-garde presque. Pour moi, c'est un game changer, tout simplement.
Et toi, Elisabeth, dans ces trois disques que tu avais écoutés quand tu avais 3 ans, évidemment.
Ouais.
J'écoutais Aphex Twin à 3 ans, ok.
On avait les Smashing Pumpkins.
Ouais.
Nous avions Cypress Hill.
Ouais.
Et nous avions Aphex Twin.
Ouais, alors je pense que je vous rejoins sur... je te rejoins, Alex, sur Aphex Twin pour... Et on parlait de côté un peu de... Je vais dire digression, mais c'est pas du tout le mot. C'est moi qui
transgression.
Transgression. Ouais. C'est mon métier, c'est les mots. Je sais pas si vous êtes au courant de transgression. Et en fait, tu parlais du côté visuel. Ça, c'est hyper intéressant aussi que ce soit une porte d'entrée, ce truc, ce visage difforme sur cette pochette, sur une femme avec des seins. Enfin,
c'est dingue. Hein. Tout le travail qu'il faisait à l'époque avec, j'ai oublié le nom de ce vidéaste.
Chris Cunningham,
qui a fait des clips aussi pour Björk après. Enfin, voilà une génie.
Mais il me semble que beaucoup de personnes se sont aussi identifiées à ce côté visuel. En fait, ça fait partie intégrante de l'univers d'Aphex Twin. On peut pas séparer les deux. Pour revenir encore sur Dour, je pense que les gens qui étaient présents sur place ont compris que, en fait, la partie visuelle fait aussi partie de la proposition. Et que, tout son œuvre se base aussi sur le côté un peu singulier, original, inquiétant. Et voilà, moi, c'est quelqu'un que je considère, que je place très très haut.
Bah écoutez, super. Moi, je prendrais quand même les Smashing Pumpkins parce que moi, j'avais 16 ans quand ça sort et je pense que les Smashing Pumpkins, quand ça sort, c'est vraiment un disque qui marque vraiment l'adolescence. Oh, une vie, je ne sais pas, une adolescence en tout cas, on va dire ça. Allez, on attaque maintenant la seconde partie de ce podcast qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur Elisabeth et son travail aujourd'hui. On l'a dit, t'es rédactrice en chef du Fooding. Alors peut-être que pour les auditeurs, comprennent peut-être un peu mieux comment tout cela fonctionne. Est-ce que tu peux déjà nous parler du Fooding, de son fonctionnement, puis aussi des valeurs qu'incarne et que défend le Fooding?
Le Fooding, c'est donc un guide de restaurant à la base. Moi, je suis la rédactrice en chef de la partie magazine. Donc c'est un média qui s'est vraiment construit sur la recommandation d'adresses à une époque, donc c'est né en 2000, à une époque où on est une époque de basculement dans la bouffe, dans la gastronomie à l'époque, donc on parle de haute cuisine, on parle d'un certain type de cuisine aussi, de techniques, de personnes, de brigades, donc de nombre de personnes qui vont travailler en cuisine, et aussi d'une certaine, pour être gentil, on va dire, discipline. Pour être plus réaliste, on pourra parler d'univers assez toxique. Et donc, le Fooding déboule en allant voir ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, à Londres, où il y a une nouvelle scène. Pour moi, la musique et la bouffe, ça évolue en parallèle.
On a vu beaucoup de parallèles en préparant cette émission, je te rassure.
Je trouve que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la musique avec qui j'ai évolué, avec qui je peux aller au resto aujourd'hui. Parce que je pense que les goûts évoluent et puis il y a des histoires qui évoluent ensemble. Donc, va voir ce qui se passe à Londres où il y a une nouvelle scène qui est en train d'éclore et que le Fooding, à travers des personnes qui bossent, va appeler la bistronomie. Donc, c'est vraiment comme dans un courant musical, la jonction de deux vibes, la gastronomie et l'ambiance bistrot, donc un service un peu plus simple, des endroits plus plus facile d'accès, peut-être des prix un petit peu plus facile d'accès, même si on est quand même dans un monde de privilèges. Et donc voilà, le fooding saisit la bistronomie en plein vol, en devient un acteur aussi, puisqu'il est dénicheur, défricheur. Le fooding, c'est comme les Inrock au début des années 2000. D'ailleurs, le fooding est né dans les locaux de Radio Nova. Avec donc autour pas mal de gens qui bossent sur de la littérature, sur de la musique, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le... Et donc voilà, qui a une évolution. J'en connais pas beaucoup, en fait, des magazines de bouffe qui ont cette longévité.
Parce qu'il était le premier aussi, peut-être. En tout cas, il a saisi peut-être une...
Moi non, parce qu'il y avait le guide Michelin, qui est un guide de restaurant. Il y avait Goemio. Et je pense qu'il a toujours, il y a toujours eu énormément de jeunes dans cette rédaction. D'ailleurs,
à l'inverse des rédactions de Goemio et du guide Michelin, j'imagine. C'est ce que tu essayes de nous faire.
Chacun ça. Non.
Mais je dis pas.
Je pense qu'en tout cas, le fooding a toujours attiré des jeunes, tout en réussissant à garder des personnes plus âgées. Mes beaux-parents, qui ont 60 ans, sont des fans du fooding, vont aux adresses qui ouvrent à Paris, etc. Et voilà, un des trucs assez beaux, c'est qu'Alexandre Camas, le cofondateur du fooding, est parti il y a deux ans et demi, m'a laissé sa place à la rédaction en chef. Et dans son édito de départ, il disait « Le fooding, c'est un guide de restaurant de jeunes. Moi, je suis plus aussi jeune qu'avant. Et donc, je dois laisser partir ça et je dois leur confier. » Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur le fooding.
Et quelles sont les valeurs, en fait? C'est ça aussi que vous incarnez, que vous voulez défendre. C'est celle-là, c'est celle d'une cuisine.
C'est d'une cuisine qui cherche l'authenticité, ouais. Qui cherche régulièrement à s'affranchir des codes, qui cherche le plaisir. Nous, on défend de plus en plus, enfin, on défend vraiment avec la rédaction, une cuisine plus inclusive, plus respectueuse des humains. Parce que, ben, comme la musique, en fait, c'est difficile d'aller manger à la table d'un chef dont on sait que c'est un agresseur sexuel ou qu'il est violent avec ses équipes. À nouveau, là, moi, je perds tout plaisir à consommer ça, à donner de l'argent à ces personnes, etc. Donc voilà ce qu'on essaie de défendre.
Et ce sont des débats qui sont difficiles à avoir, parce que finalement, toi, tu nous parles de ça. C'est un peu comme avec la musique, on peut faire le parallèle avec la musique où des rumeurs circulent, des bruits, t'entends ceci ou cela, personne ne le dit vraiment parce que ça sort pas. Moi, j'aime aller au restaurant, mais c'est vrai que c'est très difficile. Est-ce qu'il y a une forme d'omerta aussi dans ce milieu-là, et une difficulté peut-être aussi à faire, à ce que certains assument leurs responsabilités, assument leurs erreurs ou assument leurs travers, leurs penchants, ben, comme tu le dis, sexistes, violents, misogynes.
Il y a eu pas mal d'évolutions ces dernières années. On est encore, mais enfin, comme dans tous les milieux, en fait, on parle de MeToo, de grandes révolutions, mais beaucoup de personnes restent en place, beaucoup de choses se savent et ne se disent pas publiquement. Mais bon, ça évolue quand même, notamment par, pour moi, la visibilisation d'autres personnes. Je vais pas dire que des femmes, d'autres personnes dans ce milieu-là. Je pense que c'est aussi la même chose dans la musique. En fait, laisser de la place, laisser parler, ça permet un petit peu de faire avancer le débat et parfois se faire un peu rentrer dedans aussi par des personnes qui ont enfin l'espace pour parler et nous mettre face à nos paradoxes, aux choses qu'on laisse faire. Donc, est-ce que c'est ta question, c'était est-ce que
je l'ai déjà oublié, en fait. Ça fait partie d'une grande discussion, mais par contre, un truc que j'ai pas oublié.
À nos valeurs, tu parlais des valeurs.
Ah voilà, vos valeurs. Voilà, mais ça. Par contre, je sais pas si ça a un lien avec vos valeurs, mais quelque chose qui m'a un peu fait tiquer quand t'as présenté le fooding, c'est l'accent que tu as mis sur le mot gastronomie quand t'as parlé de gastronomie. Alors je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était une forme de j'arrive pas à mettre le bon mot dessus, mais il y avait un petit ton que
tu
as utilisé.
Tu m'as trouvé pédante.
Je sais pas, c'est toi qui le... Mais c'est à toi de me le dire, non. Justement, quelle est... Parce que quand, j'imagine que si tu as mis cette intonation-là sur un mot aussi important que celui-là, pour un guide qui est quand même un guide français, qui est le pays de la gastronomie, en l'occurrence, Est-ce que finalement, le fooding, il s'inscrit aussi en réaction à ça?
Oui, c'est tout. C'est, enfin, vraiment, est né en réaction en fait, la gastronomie un peu vieille France, etc. Je pense que de la même manière que je n'ai plus ou pas ou plus envie de payer 150 euros pour aller voir Beyoncé au Stade Roi Baudouin. En fait, j'ai pas envie de me retrouver dans cette foule. J'ai pas envie de.
Ça c'est parce que tu n'es pas fan.
J'ai pas envie d'assister à ce spectacle. Je respecte toutes les personnes qui ont envie de le faire. Moi, j'ai pas envie de le faire. Bah de la même manière, je n'ai pas envie d'aller dans un restaurant où, enfin, ou peu dans un restaurant où je paye 450 balles mon menu et devoir attendre des mois et des mois. Ça veut pas dire que j'aime pas aller.
Mais tu ne dénigres pas cette cuisine-là. C'est plus le modèle. En fait, c'est voilà. Tu t'inscris contre un modèle et une façon d'envisager la bouffe, on va dire, ouais. Qui peut être la bistronomie comme la gastronomie.
Oui, c'est ça. Et en fait, je continue à consommer. J'ai un exemple, par exemple, moi, d'un chef qui m'a mis une superbe claque culinaire et aussi d'expérience. C'est le chef Kobe Deramo, qui est un chef belge.
Ah oui,
qui vient de Gand, ah, qui avait un restaurant dingue. Qui s'appelait ouais. Chambre séparée. Et pour refaire le
c'était pas donné, musique, par contre. Hein, là...
C'était vraiment pas... Donc je ouais. continue à apprécier ces expériences-là. Ouais.
Qui est en Italie maintenant, non, c'est ça?
Il est revenu en Belgique, voilà. Je pense qu'il se réinstalle.
Quelque chose qui se prépare.
Voilà, à Bruxelles. Et c'est un repas incroyable que j'ai vécu. Et c'était un truc, il y avait 12 places, un truc comme ça. Et c'était ce chef qui donc nourrissait des gens qui avaient payé quand même un bon billet, etc. Ouais. Il devait être dans la performance. C'est lui qui allait...
Toute changer
la musique,
disques,
c'était
ouais.
que des disques. Et il allait retourner tous les disques. Et... sans que jamais ils ne vendent ça comme un concept expérience gastro musicale, il y avait un truc.
Non, c'est assez naturel la façon dont le restaurant ouais. s'organise, mais par contre les plats qui sortent à une vitesse.
Il y avait une transe, vraiment. C'était... Je me rappelle d'avoir ouais. écouté. Ben il y avait Cocoroco qui était passé et puis un album de Gainsbourg, Melody Nelson. Ça s'était enchaîné de manière. D'abord on avait genre du jazz, puis il avait passé ouais. un autre truc hyper sportif et puis on arrive sur Gainsbourg. Enfin.
Mais surtout que le meuble n'était même pas dans la cuisine. Hein. Il faut savoir que c'est. Ouais. Moi quand j'y suis allé, en tout cas, c'est un espèce de meuble avec tous ses disques qui doit être. Il doit littéralement sortir de sa cuisine, aller changer ses disques et dans le. En fait, c'est dans un petit salon qui est à côté du restaurant. Il occupait un bâtiment, un ancien bâtiment de la RTT.
Ouais, très moche. Hein.
Immonde bâtiment. En face des studios Dioui, pour ceux qui connaissent, hein, les studios Dioui à Gand, donc dans la vieille ville de Gand. Mais c'est vrai que moi aussi, après, je ne fais pas énormément de restaurants, mais c'est une des expériences les plus dingues que j'ai vécues, parce qu'il y avait, moi je pense qu'il y avait même plus que 12, j'en étais à 15 ou 20
mangeurs.
Choses qu'on me donnait à manger.
Ah
en
oui,
tout cas.
Non, je parle de clients, de mangeurs.
Ah oui, on est, c'est une table
d'un comptoir,
en... Oui, mais par contre, il y a une vingtaine de plats qui sortent pendant les 3 heures où tu es là. C'est complètement délirant et pourtant tout est calme, il y a cette vibe ultra cool, t'as l'impression que bon, c'est pas trop compliqué ce qu'on est en train de vous sortir, là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer et c'est vrai que c'est une soirée délirante. Mais là par contre on est sur des expériences qui sont quand même assez exclusives, c'est quand même assez paradoxal quoi.
Ouais. Bah, c'est marrant que t'aies utilisé ce terme de trans, c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi par exemple pendant un concert ou une performance,
ouais,
que ce soit quelque chose de plus intime ou quoi, quand on a la chance d'assister à un concert dans un plus petit cadre ou quelque chose qui a l'air un peu plus exclusif, on peut aussi ressentir aussi ce côté très très grisant.
Ah mais complètement, complètement d'accord. Moi j'ai plus de mal à ressentir ça avec la gastronomie parce que clairement, moi j'aime comprendre les choses et souvent on me met sous les yeux des choses que je ne comprends pas. Il y en a certains qui vont te dire, c'est comme la musique, le lâcher prise. Laisse-toi emporter par une proposition.
Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas les grilles de lecture. Je suis
mais
d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus.
Ils me sortent le descriptif du plat et j'ai l'impression d'être chez le notaire quand j'ai été signé, un des papiers chez le notaire qui me lit des clauses d'un contrat parce que je viens d'acheter un appartement et je fais oui, bien sûr, okay. Mais j'ai rien compris. Bah, parfois, on m'amène des plats, je fais et j'ai envie de comprendre. Et ça m'énerve parce que je comprends pas, j'arrive pas à comprendre surtout la créativité. En fait, c'est surtout ça. C'est que les gens vont te dire, tu n'imagines pas la créativité que cela représente parce que moi, je peux pas, j'ai jamais mélangé les ingrédients qu'il m'a mis dans une assiette dans ma cuisine. Et donc ça, parfois, ça me dépasse. Et là, moi, je vois le différentiel. Toi, tu parles de payer 180 balles pour aller voir Beyoncé au Stade Roi Baudouin. Moi, j'adore Beyoncé. Et quand je vais la voir, je comprends ce que je suis en train de voir. Je comprends le parcours et je me dis, tu sais quoi, Beyoncé, mais tu les as mérités, mes sous, prends-les. Ça me fait énormément plaisir. Je vais dans un grand restaurant, j'étais chez Kobe Desrameaux. Alors, j'ai kiffé, mais il y avait cette difficulté à ne pas avoir tout compris. Mmh. Que moi, je trouve... mais voilà, j'ai ces problèmes que j'ai pas avec que j'ai moins, évidemment, avec la musique. Et quand, tu l'as dit, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on t'invite, vous avez sorti il y a quelques mois, maintenant, c'était au mois de mars, avril, je ne sais plus, mai, juin, enfin bref, dans ces eaux-là, la version belge du guide Le Fooding. Alors, j'ai juste cliqué sur la page de la version belge, la page web, hein, pas le guide, donc on a ici sous les yeux, mais, et en fait, la photo en arrière-plan, on voit des boulets liégeois, je crois. Une assiette de frites et un spagbolo.
Je peux te dire où c'est In Hut Spinnekopke, qui est une super adresse dans le centre-ville, qui est donc...
qui fait des bons boulets liégeois.
C'est pas un boulet, c'est des carbonades sur l'assiette.
Ah, voilà,
et en fait, c'est la plus, j'aime bien, moi, l'histoire, c'est la plus vieille auberge, encore en activité de Bruxelles, qui a de super photos d'époque, il y avait rien autour, il y avait genre, une chaussée en pierre et encore des champs autour. Et ça a été repris il y a quelques années par trois ou quatre potes, assez jeunes flamands,
ouais.
Qui ont juste envie aussi de faire. C'est hyper accessible, c'est super bon. Et il est rare aujourd'hui à Bruxelles et en Belgique de manière générale qu'on puisse encore bouffer de la bonne brasserie belge, ouais, accessible. Donc ça peut faire un peu cliché.
Mais pour tes collègues français, quand tu dois leur parler, j'imagine que cette image-là, vous ne la choisissez pas par hasard. C'est pas un hasard si tu choisis ça.
Alors ouais, il y a d'autres visuels, mais mes collègues français kiffent trop la Belgique, hein, et kiffent trop ce qu'ils découvrent ici. Ils aiment l'ambiance, ils découvrent aussi en fait des choses. Et là où la cuisine française est érigée en maître étalon, en fait, ils aiment trop venir découvrir la vibe, quoi, l'ambiance,
cuisine un peu moins coincée du cul, ça veut dire ça.
Non, pas coincée, qui se prend pas au sérieux,
ouais, voilà,
en fait.
Très belge.
Ouais.
Bah après, c'est presque un peu dommage qu'elle soit réduite aussi à ça, tu trouves pas?
Non, parce que on a 400 adresses dans le guide,
oui,
et on a vraiment,
le guide
ça
est
va
très
vraiment
bien fait, attention, hein, bravo, hein.
Du snack au gastro, donc je pense qu'on a pu montrer l'étendue de ce qu'on faisait. Après, on a fait un guide par des Belges. Donc
ouais. Avec tous les rédacteurs du guide,
il y en a,
sont Belges.
Je dirais 98%. Il y en a un Français qu'on a fait venir quand on savait que tous nos chroniqueurs, chroniqueuses connaissaient une adresse. Parce qu'on est hyper, ouais, attaché, mmh, à l'indépendance, à notre, ouais, anonymat. Toutes nos chroniques, elles sont signées sous pseudonyme. On réserve dans les restaurants sous des faux noms. On signe sous pseudonyme, donc. Donc, ouais, 98% de l'équipe est belge. On a travaillé avec des DA qui sont belges, flamands. On a travaillé avec des flamands, donc, et des francophones. Et où je voulais en venir... oui, donc, on a fait un guide pour des Belges, ouais, par des Belges. Après, c'est clair qu'au moment où on doit présenter, là où on est connu, le Fooding, c'est en France, et donc on a aussi besoin de la reconnaissance de la presse française qui se réjouit de ça. Et moi, en tant que Belge, ce que je veux, c'est pas qu'on nous prenne au sérieux. Le guide Fooding, c'est un guide sérieux qui se prend pas au sérieux. Et je veux qu'on se dise ça, qu'on est une bouffe sérieuse, qu'on a des restaurants sérieux qui se prennent pas au sérieux.
Comment ça se passe justement pour la sélection des établissements que vous allez chroniquer?
Comment ça se passe? On a un peu des indiques partout. Donc l'idée, c'est qu'on a vraiment des chroniqueurs un peu partout en France et un peu partout en Belgique. On bosse autant avec des gens qui sont dans le métier depuis longtemps, donc des journalistes food, qui font ça depuis 20-30 ans, et autant avec des gens qui sont pas du tout du métier. Et ça, pour moi, c'est important, ouais, aussi. Comme on n'est pas obligé d'être journaliste musical pour écrire dans Goûte mes disques.
Tout à fait.
Voilà, je pense que tout le monde a, comme tout le monde a deux oreilles, tout le monde a une bouche et peut apprécier ce qui entre. Et donc voilà comment ça se passe. On a des indics, on fait de la veille, on reste attentive, on reste ouverte. Et voilà.
Et vous êtes... Ça se voit dans toutes vos chroniques, c'est le fooding, c'est quand même quelque chose d'extrêmement bienveillant. Comment ça se passe quand ça se passe mal ? Une visite, j'imagine qu'il y a des visites qui se sont mal passées. Est-ce qu'il y a des secondes chances ? Est-ce qu'il y a des... Parce que bon, l'idée, c'est de mettre en valeur. C'est pas d'aller dire du mal pour dire du mal. Mais j'imagine qu'il y a parfois des visites qui se sont mal passées. Est-ce qu'on repasse une deuxième fois ou est-ce qu'on dit non, mais...
S'il y a des... Donc nous, on rechronique, on réenquête hein, tous les ans, ouais. Toutes les adresses. Donc en France, ça fait 2500 adresses chaque année. C'est un taf assez énorme. Donc disons qu'on laisse... une chance chaque année. Et puis s'il y a des adresses où vraiment elles ont vraiment une exposition, soit c'est clivant ou alors on n'entend que des éloges et nous on y va, on me dit genre bof, oui alors on va retester. Alors parfois tester deux fois, on a eu le truc il y a pas longtemps, on a testé trois fois, on s'est dit bah non, ça rentre toujours pas.
Mais voilà, l'idée c'est d'en dire du bien ou de ne rien en dire.
Exactement. Je pense que on n'a pas le time pour j'ai pas envie d'être comme ces journalos un peu aigris. J'en connais dans la musique aussi qui ont juste envie un peu de trasher. Je vois pas trop l'intérêt.
Alors tu parles de pas avoir le time et effectivement je regarde l'horloge, le temps passe. Alors peut-être pour un peu boucler cette deuxième partie, j'aimerais qu'on parle un petit peu de deux de tes passions, la nourriture et la musique et donc de la bouffe en festival.
Ah!
Parce que là, je.
Tragédie!
Ah, mais voilà, c'est quoi le putain de problème de la bouffe en festival? Et là, on demande l'avis d'une experte, évidemment. Tu dois répondre, toi seul peux répondre à cette question. Toi seul fais autorité.
Je pense qu'il y a plein de choses différentes. Et il y a pas comme il y a plein de festivals différents. Aujourd'hui, le Wheel of Green, cette année, le Wheel of Green a fait un festival 100% VG en invitant des chefs et presque ça fait partie de leur argument de vente. Je pense qu'il y a certains festivals où il n'y a pas d'intérêt pour la chose.
Pourtant, il y a une demande, c'est ça qui est paradoxal, non?
Mais peut-être que les organisateurs ont d'autres choses à faire ou s'en foutent de la bouffe. Il y a aussi des contraintes techniques. C'est vraiment pas simple de... Enfin, il y a quand même, à un moment donné, des infrastructures à mettre en place quand on veut faire de la bouffe plus ou moins bien, qui sont complexes. La friture, c'est facile parce que sanitairement, ça laisse pas trop de chance aux microbes, quoi.
Et ça va vite.
Et ça va vite, et ça envoie, etc. Après, c'est clair que je déplore qu'aujourd'hui, des gens qui font 5 jours de festival, ils doivent grailler du Mexicanos pendant 5 jours. Enfin,
oui, on a encore été soumis à ce régime catastrophique. Bah, ouais, non, comme tu dis toi-même, on commence à voir des changements. Mmh. Il y a Wheel of Green, mais je pense qu'eux, ils sont vraiment... C'est le projet global de Wheel of Green. En Belgique, on a Paradise City. Eux aussi, je pense que cette année, ils étaient sur des VG. Toi, Alex, tu ne m'as pas parlé d'un festival.
J'étais en Suède, effectivement, il n'y a pas longtemps. Et toute la nourriture était végétarienne. Et une grosse, grosse partie était végane aussi. Et c'était absolument délicieux. Tout ce qu'on a mangé était délicieux. Voilà.
Même en Allemagne, j'ai eu pareil des festivals où c'était tout végé, tout frais. Et en fait, tu te sens tellement mieux. Tu te sors pas comme si tu venais de te détruire le corps et la tête.
Non, et on n'a pas l'impression que les stands sont des restaurants qu'on a essayé de déplacer. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Et c'est tout le paradoxe. C'est que j'ai le sentiment que les gens, ils sont quand même extrêmement demandeurs. C'est juste que quand on achète nos tickets de festival, on regarde des noms sur une affiche, on regarde pas la bouffe qu'il y aura et combien elle va nous coûter. Et je pense que ça, c'est tout le problème des festivals. C'est qu'on est ultra captif.
Ah, moi, le fooding a déjà bossé avec des événements musicaux. Moi, j'adorerais que... Alors, je sais pas si c'est à titre personnel ou quoi, mais qu'à un moment donné, on puisse vraiment avoir de la consultance food en Belgique, un peu pointue, un peu intéressante.
Surtout, les gens sont prêts à mettre le prix.
J'allais dire, il doit y avoir un juste équilibre quelque part entre une offre bouffe de qualité et un prix qui soit accessible à tous. Moi, il doit y avoir quelque chose au milieu.
Voilà. Les Ardentes, avant d'être le mastodonte que l'on connaît quand ils étaient encore sur leur ancien site, ont été un des premiers festivals en Belgique Belgique et à mon avis devait être presque précurseur à pas mal de kilomètres
c'est
à
l'allée
la ronde.
Des
l'allée des saveurs,
la fameuse, la légendaire et tous les gens qui ont été aux Ardents disaient mais l'allée des quel saveurs. Bonheur, on va aller à l'allée des saveurs,
on
c'est
va
en
se faire
deux scènes
lumpia.
Et on va se faire un truc qui est correct. Alors après certes c'était de la bouffe de friture, c'était des burgers, ok, mais tout était bon et on n'était pas soumis effectivement à cette dictature de la frite à 6 euros qui est absolument dégueulasse. C'est un peu une bataille qui va être très difficile malheureusement de gagner la bouffe au festival.
Et c'est marrant que ce soit les gros fests qui presque aient le plus de mal à mettre ça en place, alors que potentiellement c'est ceux qui ont la logistique où ça se mettrait le mieux, qui sont capables de peut-être engager quelqu'un pour réfléchir à ça, etc. C'est ça que je trouve.
Oui, après je peux imaginer qu'aussi faire son billet quand on a beaucoup plus d'investissement, faire venir des food trucks, etc. Si eux sont traités au même tarif que le gars qui vend des cornets de pâtes et des frites, lui, on va dire que l'argent il rentre assez facilement, la rentabilité est très rapide et que forcément on va prendre un festival qu'on adore. On y était cet été, on a parlé de Dour, qui est un festival qu'on aime vraiment ici à Goûte Mes Disques, mais on a un peu l'impression de ce festival des années 90 sur la bouffe, où on se dit, mais attends, ils ont pas pris conscience que les gens avaient envie de manger correctement sur un festoche qui commence le mercredi, qui se termine le dimanche, quoi. Ce qu'on impose culinairement à ces gens, c'est assez dingue. Et il y a quelques offres un peu qualitatives, mais encore une fois, vu qu'elles sont noyées dans de la malbouffe, qui est meilleur marché que l'offre un peu quali, et quand tu passes et que tu dis ah ouais c'est deux fois plus cher, mais attends, moi je dois boire des bières évidemment après, bizarrement.
Je serais vraiment curieuse d'entendre des organisateurs de festivals, des programmateurs, entendre ce qu'ils ont à dire sur ce sujet. Je peux tout à fait entendre qu'il y a des contraintes et j'aimerais les entendre celles-là, mais aussi savoir qu'est-ce que ça représente pour eux, parce que je pense effectivement que la manière... Aujourd'hui, c'est important quand même la manière dont tu traites tes festivals et tes festivalières, d'autant plus dans des trucs qui deviennent de plus en plus gros.
Ouais.
Pour moi, c'est la même chose que pas mettre de l'eau potable, assez de points d'eau potable, pas mettre
d'accord.
Assez de chiottes, de ouais. Pas mettre assez de douches.
Mais ça s'améliore sur tous ces points et j'ai le sentiment que c'est un peu la dernière barrière qui tombe pas encore, c'est de bien bouffer un festival. C'est quand même d'une tristesse.
C'est peut-être pour ça que t'es parti avant Fex Twin.
Ça a peut-être un petit peu joué, ça va, je ne te le cache pas.
Et de bien boire, et pour ça, il faut... voilà, je voulais vous parler d'une initiative. C'est Soif, l'agence Soif à Paris, qui est une des premières à avoir mis des cubits de vin nature sur des festivals, et notamment à We Love Green. Des gens qui adorent la musique, qui en jouent aussi, qui mixent, etc. Et je me dis, pareil, c'est trop... pas avoir l'énorme barre dans la tronche le lendemain, de t'être dit que tu t'as pas genre ingéré en plus de l'alcool plein de sucre, énormément de sulfite. Enfin, voilà, il y a matière à réfléchir.
Clairement.
Chez nous aussi.
Sur cette belle conclusion, ça va être l'heure de se quitter, non sans oublier bien sûr les traditionnels remerciements. Alors évidemment, Elisabeth, un immense merci d'avoir accepté notre invitation. On vous rappelle que les guides Fooding 2023 version belge et française sont toujours disponibles. On vous rappelle que le Fooding, c'est aussi un site et une app qui vient d'être lancée, c'est ça ? Ou qui va être relancée, c'est ce que tu nous disais ?
Une app qui vient d'être lancée et maintenant avec toute une partie belge.
Voilà. Et on vous rappelle aussi le livre American Appetit d'Elisabeth, qu'on a un peu omis d'évoquer par manque de temps, mais ça c'est parce que la discussion était particulièrement intéressante. Lui aussi, il est toujours disponible. On remercie aussi évidemment Alex de nous avoir accompagnés. Ça va, t'as survécu à ce premier épisode, tu reviendras ?
Je reviendrai, tu m'as régalé.
On remercie aussi Tommy qui était à la technique. Et puis on vous remercie, vous qui nous écoutez. Merci pour votre fidélité, vos encouragements. Pensez bien sûr à parler de Game Changer autour de vous, à nous lire sur goutemedisc.com. On vous rappelle qu'on est aussi un média webzine qui parle de musique tous les jours, à nous suivre évidemment sur nos réseaux sociaux et enfin à nous mettre un paquet d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est important. Et bien sûr, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, pensez à nous soutenir sur la plateforme de financement Tipeee. On ne vous le dira jamais assez, mais Goûte Mes Disques, comme ce podcast, ce sont des projets bénévoles et indépendants. Et ce sont vos dons aussi qui nous aident à exister. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Elisabeth, merci Alex et à la prochaine.